Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon, Rosalie Suc, mise en onde ce matin par Florent Bujon et réalisée par Benjamin Hu. Dernier temps de notre série consacrée aux aspirations démocratiques à l'occasion de cette opération spéciale sur France Culture. 1989-2019, 30 ans après la chute du mur, l'histoire continue. Après nous être intéressés lundi à la crise hongkongaise, mardi aux manifestations en Russie, hier au processus révolutionnaire en cours du côté du Soudan et de l'Algérie, on se tourne ce matin du côté du Brésil.
Le Brésil, au-dessus de tout, et Dieu au-dessus de tous. Le président ne considère pas le 31 mars 1964 comme un coup d'État.
J'ai déjà vécu une dictature, je ne veux pas en vivre une autre. Et lui va être un président qui va légitimer la dictature. Avec des militaires au pouvoir, y compris dans le pouvoir judiciaire, il va avoir les mains libres. On ne peut pas les laisser faire.
Nous allons construire un Brésil pour la majorité. Les minorités doivent s'incliner. Ou elles s'adaptent, ou simplement elles disparaissent.
Ce qu'il veut, c'est nous envoyer dans les villes pour mieux exploiter nos terres. Il veut tuer la forêt, en finir avec les natifs. Pour qu'un pays soit puissant, on n'a pas besoin de s'attaquer aux arbres.
À l'automne dernier, l'élection de Jair Bolsonaro avait soulevé d'importantes craintes sur un éventuel recul démocratique, alors que le président brésilien d'extrême droite se retrouve cette semaine à la une de tous nos journaux du fait de cette crise diplomatique déclenchée par les incendies en Amazonie. Tentons de dresser un premier bilan de son action. Coupe dans les budgets des universités et des instances de protection de l'environnement, répression policière, discours anti-minorité décomplexé, les premiers mois du mandat de Jair Bolsonaro ont contribué à créer un climat extrêmement tendu. Mais la démocratie est-elle menacée? 30 ans après les premières élections présidentielles post-dictature au suffrage universel direct de 1989, que nous apprend le cas Bolsonaro, nostalgique, assumé du régime militaire, sur l'évolution historique du Brésil et comment les Brésiliens réagissent à ce durcissement du régime. Bonjour Armel Enders.
Bonjour Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 8, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Le dernier en date, la troisième édition d'une histoire du Brésil qui est parue chez Chandaigne. Alors on avait prévu de parler du Brésil depuis longtemps, mais on a été un peu rattrapé par l'actualité, Armel Enders. C'est vrai que ces derniers jours ont été marqués par cette montée des tensions entre la France et le Brésil. Il y a d'abord eu la crise même autour des incendies en Amazonie, mais il y a eu aussi, on s'en souvient, des attaques plus personnelles qu'on n'attend pas forcément d'un responsable politique. On a aussi un Bolsonaro qui a reproché à l'Élysée de l'avoir traité de menteur à propos de ses promesses non tenues sur l'accord de Paris, qui ont d'ailleurs décidé le président français de suspendre ce projet de Mercosur, le marché commun du Sud. Est-ce qu'on avait, vous qui êtes historienne, est-ce qu'on avait déjà connu une telle crise entre Paris et Brasilia? Et puis qu'est-ce que cette séquence aussi nous révèle de la manière, la conception de l'exercice du pouvoir de Jair Bolsonaro?
Alors, des crises entre la France et le Brésil, il y en a eu quelques-unes, notamment un épisode oublié qu'on appelait la guerre de la langouste.
Au début des années 60.
Voilà, en 1963, où la France pêchait dans les eaux brésiliennes des langoustes en ne respectant pas un accord qui avait été conclu avec le Brésil.
C'était une affaire sérieuse, hein. On avait envoyé des navires militaires pour aller défendre les bateaux de pêcheurs français. Hein.
Oui, tout à fait. C'était une affaire tout à fait sérieuse. Et puis, si on regarde l'histoire sur une plus longue période, il y a eu souvent des affrontements. On met toujours l'accent dans les cérémonie diplomatique sur l'amitié éternelle entre la France et le Brésil. En fait, il y a eu aussi beaucoup de d'affrontement. Mmh.
Mais si on dit depuis le retour de la démocratie, depuis la fin des années 80, une crise diplomatique comme celle-ci, on n'avait pas vu.
Non, ça c'est nouveau, de cette ampleur-là, c'est tout à fait nouveau.
Qu'est-ce qui pose problème à Bolsonaro? Parce qu'il y a eu cette séquence qu'on a vue, mais en réalité, quand on regarde un tout petit peu en arrière, il y a eu quelques semaines aussi... un incident diplomatique, disons-le. Jean-Yves Le Drian se rend au Brésil, il est censé rencontrer Bolsonaro, et au dernier moment, Jair Bolsonaro décide d'annuler son rendez-vous parce qu'il a une priorité, c'est d'aller chez son coiffeur. Qu'est-ce que Bolsonaro reproche à la France?
Alors, en fait, c'est pas tant à la France qu'à Emmanuel Macron, je pense, Bolsonaro est complètement aligné sur Trump. C'est son modèle. Alors, même s'il y a des différences assez grandes dans leur trajectoire, et il se prend un peu pour le président des États-Unis. Et je pense que le déclenchement de la crise, alors donc Macron, c'est un peu l'anti-Trump dans les représentations que peuvent en avoir les partisans de Bolsonaro. C'est vraiment l'antithèse du bolsonarisme une certaine mesure. Je pense que le fait que les relations se soient un peu tendues avec Trump, notamment l'offensive contre la taxe concernant les GAFA, a autorisé Bolsonaro à agir comme son camarade de Washington.
Mais donc plus une histoire personnelle qu'un différent...
Personnel, ils se connaissent pas spécialement. Ils se sont vus au
G20. De personnalité.
Pas de ce que ça représente. Même si c'est qu'un discours, une forme de libéralisme qui n'est pas celui de Bolsonaro.
Au-delà de cette crise particulière, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires assez négatifs sur Bolsonaro dans l'ensemble de la presse internationale. Est-ce qu'il existe, vous pensez, un risque d'isolement du Brésil sur la scène internationale? Alors, soit, évidemment, Bolsonaro est encore très soutenu par Donald Trump, qui a dit notamment sur Twitter que Bolsonaro faisait du très bon travail, notamment sur les incendies en Amazonie. On voit que ce soutien est fort, mais au-delà des États-Unis, de ces États-Unis de Trump, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement général sur la scène internationale?
Alors ça passera par les milieux économiques. Déjà, quelques grandes marques ont décidé de boycotter le cuir brésilien. La crise avec il y a eu la crise avec la France, mais avec l'Allemagne et la Norvège aussi, avec l'Argentine.
Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Allemagne?
Le fonds amazonien qui était abondé par l'Allemagne et la Norvège, donc les Allemands, il y a une quinzaine de jours, trois semaines, ont décidé et à la suite des Norvégiens, ou je sais plus qui a commencé d'ailleurs, ont décidé de ne plus abonder ce fonds puisque la déforestation marchait grand train. Et Bolsonaro a répondu à la Bolsonaro qu'il n'avait pas besoin de cet argent et que les Européens feraient mieux d'utiliser cet argent à reforester, reboiser, l'Europe. Pareil avec l'Argentine.
Il a fait la même chose sur la proposition d'aide financière à la fin du G7. Dans un premier temps, il a dit on n'a pas besoin de cet argent. Et puis finalement, là, on est prêt à l'accepter, cette aide financière internationale.
Alors, en fait, c'est sur la pression des gouverneurs de la région qui ne peuvent pas se passer de cet argent qu'il a été amené à... Mais enfin, c'est toujours pas très clair. Surtout... Lors de cette réunion avec les gouverneurs, il a dit il faut s'attaquer aux réserves indiennes. Plus aucune démarcation, c'est extravagant. Les terres qui sont laissées aux Indiens dans l'Amazonie, il faut en finir avec ça. Il n'a pas beaucoup bougé non plus. Et cet argent, on ne sait pas trop s'il acceptera ou pas.
On va reparler évidemment de ces droits des peuples autochtones. L'Amazonie, c'est évidemment ce qui était au cœur de ce différend entre la France et le Brésil. Écoutez Jair Bolsonaro à propos justement de ce que la France avait dit sur les incendies en Amazonie.
Emmanuel Macron doit retirer les insultes qu'il a proférées contre ma personne. D'abord, il m'a traité de menteur et ensuite, d'après mes informations, il a dit que notre souveraineté sur l'Amazonie était une question ouverte.
Voilà, il est question aussi de souveraineté. On va essayer de comprendre ce que l'Amazonie représente au fond dans le nationalisme brésilien. Bonjour Catherine Aubertin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Vous avez dirigé un certain nombre de projets de recherche au Brésil et notamment en Amazonie. Il faut peut-être essayer de se mettre à la place des Brésiliens et en particulier des Brésiliens peut-être d'extrême droite, nationalistes, et essayer de comprendre ce que représente l'Amazonie pour eux, pour bien comprendre cette crise-là. Expliquez-nous ce qu'est l'Amazonie dans ce nationalisme brésilien qui va nous éclairer sur peut-être la manière dont Bolsonaro s'est tendu sur cette question-là, parce que on a entendu Emmanuel Macron à propos des incendies dire que c'était le poumon du monde, que c'était un bien commun, qu'il fallait le préserver tous ensemble, et Bolsonaro a répondu que c'était une attitude parfaitement colonialiste. Il faut comprendre ce qu'est cette Amazonie dans le nationalisme brésilien, Catherine Aubertin.
Oui, l'Amazonie a toujours été quelque chose d'assez sensible au Brésil, pas tant du fait de son importance, puisque en Amazonie, l'Amazonie représente en moins de 10% du PIB, plutôt 8%, et représente seulement que 10% des habitants, hein, alors que au point de vue surface, elle représente plus de 40%. Enfin, là, c'est pour donner une idée. Donc, l'Amazonie a toujours été, paradoxalement, quelque chose de pas trop important dans la vie nationale brésilienne, mais est quelque chose d'extrêmement important dans le nationalisme brésilien du fait de l'intérêt que portaient les puissances étrangères à l'Amazonie.
Oui, mais enfin, il n'y a jamais eu de projet d'internationalisation de l'Amazonie ou même de...
C'est régulier.
Ah oui?
C'est régulièrement. C'est régulier, ce projet d'internationalisation. L'Amazonie avait même voulu faire sécession il y a quelques siècles du reste du Brésil. Par la suite, la puissance américaine, les Américains sont très prêts hein, quand même. La puissance américaine avait exigé l'internationalisation de la circulation sur le fleuve Amazon. Régulièrement, il y a des discours comme quoi il y a des richesses qui devraient être à tout le monde. Alors maintenant, c'est le discours écologique qui représente l'Amazonie comme indispensable pour l'équilibre écologique de la planète. Et ça, c'est toujours très très mal perçu parce que c'est vraiment une appropriation vue de l'extérieur. C'est-à-dire l'Amazonie est brésilienne. Tout le travail des militaires, avec toute l'occupation de l'Amazonie, s'est faite pendant la période militaire avec un mot d'ordre, c'était entregar, c'est-à-dire intégrer l'Amazonie pour ne pas la livrer. Il fallait l'occuper parce que et la protéger des convoitises internationales. Donc en fait, le discours écologique reprend ces grands thèmes, joue encore sur ces grands thèmes. Et on retrouve également l'intérêt porté aux Amérindiens, comme ça renvoie aussi à quelque chose d'historique, la peur que ces territoires indigènes fassent sécession du fait de leur lien à l'international.
Vous restez avec nous, Armel Enders. J'entends deux choses. J'entends une crainte finalement historique ancienne du Brésil de voir une forme d'ingérence des puissances étrangères sur cet espace-là qu'est l'Amazonie, et puis une crainte aussi que les peuples qui y habitent menacent d'une certaine manière, en tout cas, et des velléités d'émancipation. C'est aussi ça qui permet de comprendre la crise là entre Paris et Brasilia, Armel Enders.
Alors, velléité d'émancipation, il n'y en a jamais eu de la part des populations amérindiennes. Enfin, il n'y a jamais eu de séparatisme de ce genre. En revanche, c'est un vieil argument. En fait, c'est un vieil argument qui date de l'époque de l'impérialisme colonial du 19e siècle, qui a été très fortement exprimé par le président américain, l'ancien président américain Theodore Roosevelt, qui était allé faire une expédition au Brésil en 1913 pour dire dans les endroits qui ne sont pas ouverts à la civilisation, c'est-à-dire colonisés, ce sont des ventres mous où peuvent s'engager les intérêts étrangers qui justifient une mise en valeur. Donc c'est un argument qui a été incorporé assez tôt par les militaires et beaucoup par les militaires positivistes, et puis qui a été renforcé dans les années 1960 sous la dictature militaire, enfin un peu avant la dictature militaire, hein, par un des grands penseurs militaires, enfin des idéologues de la dictature militaire qui s'appelait Golbery da Silva, et qui a fait effectivement l'Amazonie a été un terrain d'expérimentation de toutes sortes pour les militaires et correspond à un grand projet militaire. Et c'est d'ailleurs sur ce thème que les tensions qu'il peut y avoir entre Bolsonaro et les militaires que ça peut se ressouder.
Catherine Aubertin, chaque année évidemment l'Amazonie est le théâtre d'incendies, mais il semble, en tout cas c'est ce que les chiffres montrent, que ça soit plus grave cette année. Est-ce que c'est la faute de Jair Bolsonaro?
Je crois que c'est vraiment une situation, il y a beaucoup d'explications, mais c'est sûr que le feu vert qu'a donné Jair Bolsonaro pour vraiment toutes les impunités, enfin il a déclaré carrément l'impunité de toute attaque à l'environnement. Là on va retrouver, il a détricoté toutes les normes environnementales et même des droits sociaux et humains. C'est-à-dire qu'il a à la fois coupé les vivres des institutions chargées de l'environnement, du contrôle de l'environnement, que ce soit l'IBAMA qui est la, disons, la police environnementale, ou l'ICM Bio qui gère les aires protégées. Il a aussi coupé les têtes, hein, pas uniquement les vivres. C'est un tout. Il est en train de simplifier les licences environnementales, c'est-à-dire les autorisations qu'il faut demander avant de toucher à l'environnement, d'ouvrir une route ou d'ouvrir un champ. C'est quelque chose de très patient. Et il a également, on l'avait suivi, démis de ses fonctions le président de l'INPE, là, du centre de recherche spatiale du Brésil, comme messager qui donnait donc toutes les statistiques de déforestation. Ces statistiques, il faut le dire, elles sont extrêmement précieuses. Elles sont, vous, sur un simple lien internet, vous pouvez regarder tous les points d'incendie brésiliens avec leurs coordonnées et d'où ça vient.
Oui. Il lui a reproché de ne pas avoir prévenu le gouvernement qui aurait pu peut-être se préparer justement à cette annonce. C'est en tout cas ce qu'il a dit. Armel Anders, on entend Catherine Aubertin qui nous explique qu'effectivement il y a une attaque assez directe envers les institutions, les agences qui sont chargées de défendre l'environnement. Mais qu'en est-il des droits des peuples autochtones? Parce que c'était une des grandes craintes qu'on avait lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Très concrètement, quel bilan est-ce qu'on peut faire de son action s'agissant des droits spécifiques qui ont été acquis par les peuples autochtones de ces régions d'Amazonie?
Alors, il y a des droits qui sont bien précisés dans la Constitution, donc c'est difficile à bouger comme ça. Ce que fait Bolsonaro, c'est d'abord en parole, a estimé, c'était très bien résumé, je crois que la philosophie du bolsonarisme était dans les déclarations que vous avez passées en début d'émission. Les minorités doivent s'effacer devant la majorité ou disparaître. Donc ça vaut pour les Amérindiens. Donc il a dit très clairement qu'il fallait, pour l'instant il y a de grandes réserves qui permettent une certaine autonomie aux Indiens, et l'idée est de toute façon de ne pas les étendre ou en donner d'autres, et de les et si possible de revenir sur celles qui existent.
Et ça c'est le projet, c'est l'idée.
Ça c'est le projet.
Pour le moment, est-ce qu'il s'est en train d'appliquer?
Il y a quand même des lois et des institutions au Brésil, donc mais il y a une autre manière de procéder, totalement brésilienne et totalement dans l'optique de Bolsonaro, qui est la sous-traitance et l'impunité des exactions, c'est-à-dire que vous avez eu des assassinat de leaders indigènes, qui se pratiquent. Alors, c'est pas une nouveauté.
Avant qu'il arrive, c'est un sujet d'ailleurs qu'on avait traité il y a 12 ou 18 mois ici même à ce micro.
Oui, sauf que ça s'amplifie et que là, il y a un projet politique derrière. S'il a la moindre possibilité d'en finir avec les réserves, il le fera avec un grand plaisir.
Merci beaucoup en tout cas à Catherine Aubertin qui est avec nous en direct par téléphone. Il y a un autre sujet, Armel Anders, qui inquiétait beaucoup lorsque Bolsonaro est arrivé au pouvoir, c'est la place des militaires dans le paysage politique. En particulier évidemment dans ce Brésil qui a connu une dictature militaire. C'est d'ailleurs une question qui avait été posée, cette crainte-là, au vice-président brésilien qui se trouve être issu précisément des rangs de l'armée, c'est Hamilton Mourão. Il répondait au micro de France 24, écoutez.
Il ne va rien se passer. La loi est claire. Au Brésil, les gens peuvent vivre comme bon leur semble. Personne ne va les en empêcher. Ces craintes sont le fruit du terrorisme de certaines personnes, aux positions très... qui font croire cela à la communauté internationale. Notre constitution est claire, elle définit les limites du pouvoir exécutif. Nous ne sommes pas dans l'Empire brésilien, avec un roi qui décide de tout. Notre président a été élu, avec des droits, mais surtout des devoirs.
Bon, voilà, pas de crainte à avoir, nous dit le vice-président Milton Mourão. Ça, c'était en janvier dernier, au moment où Bolsonaro est arrivé au pouvoir. On est 8 mois après Herman Anders. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de crainte à avoir aujourd'hui? Le retour des militaires dans le paysage politique brésilien, c'est pas un problème? C'est pas une menace pour la démocratie?
Alors, la démocratie, elle est menacée par d'autres phénomènes, et surtout par le clan Bolsonaro lui-même. On a un clan familial paramilitaire qui a fait sa fortune grâce aux deniers publics, par les fonctions politiques et avec des connexions assez peu recommandables. C'est pas l'armée le plus grand danger. Elle a même été considérée par certains comme un peu un garde-fou. Et Bolsonaro se méfie de l'armée, se méfie à marginaliser autant que possible son vice-président. Et en fait, il est en train de... l'obsession désormais, c'est 2022, c'est-à-dire la prochaine élection présidentielle. Il avait déclaré qu'il ne ferait qu'un mandat, mais visiblement, il a changé d'avis. Et là, il est obsédé par tous les rivaux possibles. Il y a des ambitions qui se manifestent. Et il est en guerre contre ces ambitions-là. Et puis, d'autre part, il protège son clan, notamment en intervenant, et ça c'est de l'autoritarisme, en intervenant dans les nominations qui concernent la police judiciaire, la police fédérale, pour surtout dans l'État de Rio de Janeiro, où il a ses bases claniques, familiales, et où il y a de très graves affaires qui menacent.
Mais il a quand même... nommé, je crois, 8 militaires à des postes dans des ministères.
Oui. Tout à fait. L'armée est importante, mais il en a aussi éliminé pas mal, parce que il y a des pouvoirs concurrents, en fait. C'est un gouvernement, c'est un bateau ivre, ce gouvernement. Il y a des micro-clans qui tirent dans tous les sens. Et des querelles permanentes. Et donc il y a des militaires certes, mais qui ont été souvent. Alors effectivement, tendance à quand Catherine Aubertin parlait de qu'il coupait des têtes, c'est-à-dire de chasser des responsables de d'agences fédérales, il les remplace souvent par des militaires. Mais tous les militaires ne sont quand même pas totalement alignés sur le bolsonarisme. Et ceux-là n'ont pas une très longue vie.
C'est-à-dire que la cohabitation n'est pas aussi simple que ce qu'on aurait pu imaginer au début?
Certainement pas. Il y a une très grande méfiance. Et notamment, il y a un peu un mystère, c'est que la politique qui est suivie, la politique de Bolsonaro, c'est vraiment de démanteler complètement l'État, à part dans l'exécutif autoritaire qu'il peut avoir, mais c'est de tout privatiser, y compris la sécurité. Le fait de libérer les armes, c'est chaque citoyen doit se protéger lui-même. Les entreprises brésiliennes enfin, il y a des programmes de privatisation d'ailleurs, y compris des parcs nationaux. Pour l'environnement, c'est aussi un problème. Et ça, c'est pas du tout dans la tradition des militaires brésiliens qui sont assez étatistes. C'était pas Pinochet, la dictature militaire, sur le plan de l'économie. Et donc là, il y a un peu un mystère, savoir pourquoi l'armée avalise un tel gouvernement. Mais je pense que pour Bolsonaro, l'armée est vue plutôt comme un danger. Que comme un soutien.
Oui, et puis par ailleurs, il y a un certain nombre d'observateurs qui considèrent qu'en réalité, le retour, si retour il y a des militaires dans les affaires politiques, il a été déclenché avant. Michel Temer, dit-on, a lui déjà fait un certain nombre de nominations qui allaient déjà dans ce sens-là, donc avant l'arrivée de Bolsonaro.
Oui, parce que ils ont
l'ancien président garant... Michel Temer qui avait remplacé Dilma Rousseff à la suite de destitution.
Parce que vous posiez la question de la démocratie, elle n'est pas en danger depuis l'avènement de Bolsonaro, elle est en danger depuis la destitution de Dilma Rousseff et de toute la machination qu'il y a eu autour de cette destitution. le terme, enfin l'expression de coup d'État est pas complètement usurpée. Hein. On peut.
Vous pensez que c'est un coup d'État?
Je pense que c'est
un. De débat autour de cette idée de savoir si c'était un coup d'État ou pas.
Bien sûr, ça s'est fait selon des formes légales, etc. Mais c'est une destitution purement politique et qui visait et avec l'aval des militaires. Hein. En fait, les militaires ont voulu absolument chasser la gauche du pouvoir. Ça c'est sûr. C'est à ce moment-là qu'ils sont entrés très très fortement dans la vie politique.
Donc c'est moins le camp conservateur que les militaires qui, selon vous,
ah non, aussi c'est une alliance.
C'est l'alliance des deux.
C'est un parti qui s'en est mal porté parce que il est en pleine déconfiture, hein, qui est le PSDB qui voulait récupérer le pouvoir que lui refusaient les urnes et qu'il aurait sans doute eu s'il avait laissé le processus normal se dérouler. Un certain nombre de gredins qui pensaient que comme ça ils échapperaient à la justice. Et puis le parti des une justice extrêmement politisée.
Alors justement, venons-en de la justice, parce que vous dites effectivement que les militaires ont participé à cette mise à l'écart de Dilma Rousseff et ont beaucoup attaqué le Parti des Travailleurs, le PT, mais il y a une autre institution qui a attaqué le Parti des Travailleurs et ses cadres, c'est la justice. Sergio Moreau, il faut introduire évidemment cette figure, le petit juge de province qui est devenu un véritable héros national, qui a lancé cette immense campagne anticorruption. Corruption, lavage à taux, avec à la clé un certain nombre de députés, de ministres qui ont été destitués de leurs fonctions. Et puis évidemment, au tableau de chasse, on a Lula, l'ancien président, c'est Sergio Moro, hein, qui est à l'origine de son empêchement. Il n'a pas pu se présenter pour l'élection présidentielle et donc qui a ouvert la voie à Bolsonaro. Parce qu'il faut se souvenir que pendant la campagne, Lula était en réalité en tête des sondages. Sergio Moro est maintenant aujourd'hui ministre de la justice. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir précisément sur l'indépendance de la justice, qui est quand même, une des pierres qui permettent de fonder un édifice démocratique. Est-ce qu'il y a des craintes de ce point de vue-là ?
Les craintes, ce ne sont pas que des craintes, ce sont des réalités. Et ça, c'est pas dans l'avenir. Ça fait 10 ans. Alors déjà, l'opération Lavage à taux, elle a été permise par le gouvernement de Dilma Rousseff, hein, qui a absolument permis que la police fédérale lance des enquêtes et que les enquêtes aillent au bout. Alors, et puis il s'est passé là quand même des. Alors déjà, il est quand même un peu curieux qu'un petit juge devienne ministre de l'Intérieur. Enfin, au profit. Enfin, déjà l'image de Sergio Moro a quand même beaucoup souffert du fait qu'il était au service quand même du candidat Bolsonaro. Ensuite, il était censé entrer au gouvernement pour lutter contre la corruption, et là Bolsonaro lui retire absolument tous ses pouvoirs pour absolument conforter que l'opacité règne sur en tout cas les affaires de la famille Bolsonaro.
Attendez, c'est-à-dire ?
Il y a quand même de très graves. Normalement, il appartient à Sergio Moro de nommer les responsables de la police fédérale dans les différents États. Mm-hmm. Et là, Bolsonaro veut absolument changer le responsable, le dirigeant de la police fédérale dans l'État de Rio, où l'un de ses fils a de très gros ennuis. Enfin, il aurait de très gros ennuis si la justice cherchait un peu à interroger un certain nombre de gens.
Mais donc oui, l'indépendance de la justice au Brésil est menacée.
Ah, mais elle est menacée, mais le problème de la justice, elle était indépendante.
Ça, c'est une nouveauté, ça. Ça, c'est une nouveauté.
Mais il y avait un autre problème sur l'indépendance de la justice, qui est sa partialité et sa politisation. C'est que ce que montrent toutes les conversations publiées par The Intercept, hein, donc il y a le site américain The Intercept, avec un journaliste qui réside au Brésil, a eu accès et a publié avec un certain nombre de journaux. Enfin, il y a une sorte de Wikileaks de la justice et de l'opération Lavage à taux qui montre des violations répétées du droit, hein, et des enquêtes purement à charge contre Lula, et que même les magistrats eux-mêmes n'étaient pas persuadés qu'il y avait des éléments suffisants pour en finir avec Lula. Mais une hostilité personnelle à Lula, absolument patente.
Et alors justement, est-ce que ces éléments pourraient aller jusqu'à conduire à la libération de Lula ?
Alors, je veux dire deux choses. Avant-hier, il y a une décision, une condamnation du juge Moreau, hein, avant qu'il soit contre l'ancien président de la Petrobras, qui a été annulée par la Cour suprême. À la grande surprise, enfin, non pas à la surprise générale, on pensait que ça serait peut-être annulé, mais avec beaucoup de voix. Trois voix contre une, et ça peut ouvrir effectivement une réouverture d'un certain nombre. Enfin, tout ça montre que les droits de la défense ont été bafoués dans beaucoup de cas. C'est une pratique habituelle du juge Moreau de bafouer le droit. Deuxième élément, une libération de Lula. Moi, je serais inquiète pour la vie de Lula s'il était libéré. Je pense qu'il y a vraiment, je serais pas étonnée qu'il lui arrive malheur. Voilà. Je le dis tout net.
Sa caravane pendant la campagne avait été prise pour cible.
Absolument. Ouais. Et puis il y a eu une tentative de transfert de Lula. Alors Lula est bénéficie en tant qu'ancien président de la République de conditions de détention particulières. Hein, qui sont pas luxueuses. Bon, enfin, il est quasiment à l'isolement, mais enfin il n'est pas avec d'autres détenus et il s'habille à peu près comme il veut. Il était prévu par la magistrate qui est chargée de l'application de la peine de le transférer dans un pénitencier commun à Saint-Paul, ce qui aurait impliqué de lui raser la tête, de lui mettre un uniforme orange et de le mettre avec d'autres prisonniers. Et là, la vie de Lula aurait été menacée. Donc, alors ça a provoqué l'indignation générale, hein, y compris des opposants, des personnes hostiles à Lula. Mais ça révèle assez bien ce qu'est cette justice vis-à-vis de Lula.
Armel Anders, vous êtes historienne, on est aujourd'hui dans une série intitulée 1989-2019, 30 ans après la chute du mur, l'histoire continue. 1989, je le disais tout à l'heure, c'est l'année où il y a eu cette élection d'un président au suffrage universel. On est donc après la dictature militaire. Comment est-ce qu'on pense les choses au moment de la chute de la dictature militaire, à la fin des années 80, concernant la justice? On parle de justice, là. Comment est-ce qu'on pense les choses pour garantir son indépendance et pour en faire la gardienne de cette démocratie recouvrée?
Alors, on y pense au moment de l'élaboration de la Constitution de 1988, hein, qui reste le texte qu'on invoque le plus, hein, et qui était justement une constitution où il y avait, qui porte la marque de l'époque, d'un désir d'approfondissement de la démocratie, et qui donne à la Cour suprême un rôle important et qui garantit normalement l'indépendance de la justice. Peut-être plus que l'influence aussi américaine, hein, une importance donnée à la séparation des pouvoirs qui est extrêmement forte. Alors le problème, c'est que la justice au Brésil est aussi une corporation extrêmement bien payée, c'est le plus haut salaire de la République, et qui a été amenée à agir de plus en plus comme telle, comme plutôt la garante de ses propres intérêts qu'au service de la nation.
L'une aussi, évidemment, des caractéristiques des régimes démocratiques, normalement, c'est d'avoir une presse libre. De ce point de vue-là, depuis l'arrivée de Bolsonaro, est-ce que les choses se sont aggravées ou est-ce que...
Alors, la
Dieu
presse
merci,
a joué
la presse est toujours libre, indépendante, dynamique.
Alors, la presse est très concentrée au Brésil, hein, sur quelques mains et quelques familles qui ont beaucoup œuvré aussi pour la chute du PT, hein, et pour construire cette image de parti des travailleurs absolument corrompu. Non pas qu'il n'y ait pas eu de corruption dans le parti des travailleurs, mais ça n'a pas été le monstre qui a été conçu à ce moment-là et diffusé, dont l'image a été diffusée par la grande presse. Alors Bolsonaro lui-même est un peu en guerre contre la Globo, hein, qui était jusqu'à maintenant le média principal, et il s'appuie beaucoup plus sur les réseaux de communication évangéliques, qui sont une grande partie de ses soutiens, et notamment le groupe Record, qui est d'un de son allié Edir Macedo, l'Église universelle du Royaume de Dieu, et il passe beaucoup par là, et il a décidé de supprimer la publicité, enfin les formes de financement à la presse. Il intervient aussi, il y a une forme de censure
dans la vie artistique. Qu'est-ce qu'il reproche à Globo ?
De le critiquer. De toute façon, toute critique à l'égard de sa personne, de ses fils ou de sa politique est considérée comme absolument intolérable. Donc, alors, oui, on est encore quand même dans un pays où on peut s'exprimer. Il y a un humoriste, Gregorio Du Vivier, qui fait régulièrement des bulletins d'information extrêmement drôles et extrêmement critiques contre Bolsonaro. Il y a beaucoup de Internet permet beaucoup de médias alternatifs malgré tout, donc ça il y a encore une très grande justement sans doute en raison des menaces sur la démocratie, et puis c'est un moyen aussi pour les oppositions qui sont quand même nombreuses, hein, c'est pas peu de choses, de supporter un régime et un président qui leur fait honte et qui les effraie.
Armin Anders, sur la question de la sécurité et des violences policières, quand on regarde par exemple juste du côté de Rio, il y a 1000 personnes qui sont mortes dans des violences impliquant des policiers. Sur la période seulement janvier-avril, 588 personnes ont été tuées lors d'opérations policières. C'est ce que dit l'Institut de sécurité publique du gouvernement de Rio. Et ça correspond à une hausse de 19% par rapport à la même période sur l'année précédente. Est-ce qu'il faut le lier à l'arrivée de Bolsonaro ? Alors, cette augmentation des violences policières ?
Il faut le lier à l'arrivée du gouverneur Whitsell, qui a été élu dans la vague bolsonariste, et puis que Bolsonaro commence à regarder d'un œil torve, parce que visiblement le gouverneur Wilson a des ambitions présidentielles, mais effectivement c'est le gouvernement Whitsell, sur le plan de la sécurité, tient le même discours que Bolsonaro, c'est-à-dire un bon bandit est un bandit mort, il s'est fait filmer à bord d'un hélicoptère un fusil à la main et mettant en joue les populations qui se trouvaient sous l'hélicoptère, des favelas essentiellement. Et quant au député Jair Bolsonaro, il y a quelques années, sa solution contre l'insécurité et les favelas, c'était de bombarder les favelas, après sommation quand même, mais bon. Voilà, on en est là. Et alors,
le durcissement de la réponse policière, là aussi, il avait déjà eu lieu. Même à l'époque du PT. J'entends les propos que vous tenez et je comprends évidemment le côté un peu radical de la proposition. Mais on a aussi beaucoup critiqué le Parti des Travailleurs s'agissant d'une forme de durcissement de la réponse policière. Même si, bien sûr, là, peut-être que c'est dans d'autres proportions, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en réalité, une partie en tout cas de l'opinion brésilienne soutient ces positions. Quand il y a eu ce projet de loi qui étendait la notion de légitime défense pour les policiers, des centaines, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, sont descendues sur Copacabana pour soutenir cette proposition. Donc on voit bien qu'il y a de la part d'une partie de la société brésilienne une attente pour un durcissement de la réponse sécuritaire.
Alors tout à fait. Alors là, tout à fait. Et c'est là-dessus qu'effectivement le gouvernement Bolsonaro conserve beaucoup de soutien. Il y a et ça va effectivement dans le sens d'une partie de l'opinion. Alors je dirais pas que des centaines de milliers de gens sont descendus.
Non, j'ai dit des centaines et puis des milliers.
D'accord. Mais non, il n'y a pas eu des grosses manifestations pour ça.
C'est assez rare d'avoir des manifestations pour ce genre de choses.
En revanche, oui, mais les manifestations, enfin voilà, elles sont quand même très. Il y a des réseaux, si vous voulez, bolsonaristes qui peuvent. Donc, c'est pas des c'est logique, c'est des logiques politiques. Mais en revanche, une majorité de Brésiliens est hostile à la libération de la possession d'armes. D'après les sondages, qui est celle de Bolsonaro. Mais en revanche, une hostilité, c'est ça d'ailleurs le cœur du succès du bolsonarisme, c'est cette haine, enfin cette peur et cette hostilité à une partie, enfin, de cette fracture sociale et brésilienne, enfin, de la société brésilienne autour de la question de la sécurité, mais c'est beaucoup plus large. Enfin, il y a une peur et une détestation des favelas et des périphéries qui, c'est une haine socio-raciale. Très forte.
Et comment elles réagissent justement, ces favelas, ces territoires un peu à la marge, qui sont directement visés par ce bolsonarisme particulièrement radical en matière de sécurité? Est-ce qu'il y a effectivement des mobilisations importantes? Est-ce qu'on sent monter un mouvement qui pourrait peut-être devenir quelque chose d'un peu puissant et d'assez transversal sur l'ensemble du territoire? Ou est-ce que finalement, pour l'instant, on subit?
On subit, comme vous le disiez, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est particulier dans l'état de Rio de Janeiro, c'est que vous avez une partie des favelas qui est contrôlée par ce qu'on appelle les milices. Les milices sont des policiers ripoux, enfin des militaires ripoux.
Souvent des anciens policiers.
Souvent, voilà, ouais. Ou des policiers. C'est souvent, ça passe par des sociétés de sécurité, hein, de vigile, qui ont en plus d'autres activités et qui pratiquent le racket. Et c'est la clientèle de base du bolsonarisme. Ça, hein, c'est vraiment intrinsèquement lié à Rio de Janeiro, au clan Bolsonaro, ces milices. Donc c'est à peu près inextricable, hein, et en tout cas il n'y a pas de mouvement. Les mouvements de défense des droits humains sont aussi criminalisés, hein, par ce discours. Ils sont englobés dans ils sont considérés comme les alliés objectifs des bandits et sont peu. Ça sert aussi de liquidation politique. Voilà.
On va parler des universités, Armel Anders. Le 26 avril dernier, le ministre de l'Éducation, Abraham Weintraub, annonce son projet de réduction des budgets accordés aux universités en sociologie et en philosophie, invoquant des arguments de rentabilité, considérant que l'argent de l'État doit aller d'abord vers des disciplines qui offrent un retour immédiat aux contribuables, je le cite, afin de former des infirmières, des ingénieurs ou des médecins. Voilà ce qu'il dit. Et quelques jours plus tard, il y a des centaines de milliers, pour le coup, d'étudiants, hein, là, cette fois, centaines de milliers d'étudiants qui descendent dans la rue, c'est mi-mai.
Nous savons que le plus grand impact de ces coupes budgétaires, auparavant jamais mises en place dans notre pays, touchera les plus pauvres de nos concitoyens.
Notre président Bolsonaro a commencé à s'attaquer aux cours de philosophie, de sociologie et de sciences sociales parce qu'il veut des citoyens qui ne pensent pas.
Voilà, c'était les manifestations de mai dernier. On va accueillir un nouvel invité, Glauber Cesarino. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant à la HESS, diplômé de l'Université de Campinas et coprésident de cette association Autre Brésil. Alors, pour répondre aux critiques des étudiants, le gouvernement a expliqué qu'il s'agissait de réorienter les budgets vers l'école primaire. Un élève d'enseignement supérieur coûte 10 fois plus qu'un enfant de crèche. Que feriez-vous à ma place? Voilà ce qu'a expliqué le ministre de l'Éducation. Et après tout, finalement, cet argument, je vais me faire le défenseur du gouvernement brésilien, il peut s'entendre. Et par ailleurs, il y a d'autres pays qui réorientent les budgets dans ce sens. Je vais encore me faire le défenseur du gouvernement brésilien, mais l'abandon de la sociologie et de la philosophie au Brésil, en réalité, ça remonte à avant Bolsonaro. Alors finalement, qu'est-ce qui pose fondamentalement problème avec cette décision, Glauber Cesarino?
Bon, tout d'abord, c'est que c'est une fausse réponse, parce qu'en effet, il n'y a pas de transférence de budget de l'enseignement supérieur vers l'enseignement primaire. Ce qu'on voit, c'est une transférence du budget de l'enseignement en général, de l'éducation en général, parce que là, on parle de 30% pour le ministère de l'Éducation, des coupes budgétaires, qui vont pour assurer ce qu'ils appellent les déficits des retraites. Donc l'argent ne va pas de l'université vers les crèches. Les crèches sont aussi contingenciées. L'enseignement primaire est aussi contingencié à la hauteur des 15, 16, 17%, ça dépend de comment on analyse les chiffres. Et en deuxième temps, c'est une fausse réponse parce que on résout pas les problèmes d'éducation primaire au Brésil en réduisant les budgets des universités qui ont des rubriques propres. Il s'agit pas de transférer, de choisir les moins mal pour choisir quelle zone de l'éducation on va favoriser. C'est qu'il faut aussi augmenter les recettes de l'État Et pour cela, il faut discuter de tous les plans économiques de développement du Brésil qui, aujourd'hui, a reçu des coûts considérables.
J'entends parfaitement votre position, Glauber Cesirino, mais après tout, ces débats-là, on peut les avoir un peu partout. On les a eus en France et finalement, un peu partout, on demande aux universités des efforts budgétaires et on leur demande d'aller vers plus d'autonomie financière. Mais j'ai l'impression que le gros problème de cette façon d'agir-là, c'est qu'il n'est pas forcément tant question d'une décision économique, budgétaire, qu'une décision idéologique. Il y a eu énormément d'attaques de la part du gouvernement et de Bolsonaro en particulier autour du fait que les universités seraient supposément des lieux où se déploierait le marxisme culturel. C'est une expression qu'il utilise très régulièrement. Est-ce que c'est pas ça au fond qui pose problème, c'est-à-dire l'idée que l'université brésilienne est un espace de gauchisation de la jeunesse?
Il y a en fait carrément cela, et on l'a vu très bien dans la prise de l'investiture de Weintraub, les discours de Bolsonaro. Il a dit, facsimilé, tu vois, exactement ça, on veut que les étudiants arrêtent de s'intéresser par la politique. Donc c'est pour ça qu'on choisit un ministre comme celui-là. Cependant, il faut toujours ajouter que Weintraub, il correspond aussi au profil désiré par les néoconservateurs soutenus par les gourous de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, mais aussi, on peut pas oublier qu'il plaît également au secteur néolibéral du gouvernement, donc Paulo Guedes, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie au Brésil, parce que bon, Weintraub, c'était aussi un PDG d'une banque brésilienne pendant quelques années. Donc il plaît à la fois au marché, parce qu'il va réduire les budgets, il va ouvrir les budgets des universités et de l'éducation en général à l'investissement international et privé national, donc rentabiliser, monétiser l'éducation au Brésil de plus en plus. Et en même temps, en faisant cela, il va couper cet élan, selon Bolsonaro, cet élan marxiste des universités et des secteurs intellectuels au Brésil.
Vous restez avec nous, Glauber Cesirino. Je voudrais entendre Armel Anders sur ces attaques de Bolsonaro à l'endroit des universités qu'il considère au fond comme des bastions du Parti des Travailleurs, hein, disons les choses comme ça.
Oui, alors ça va même plus loin en fait, parce que les attaques contre la sociologie et la philosophie comme discipline, ça date vraiment quand même de Bolsonaro. Hein. C'était pas le cas sous les gouvernements PT. Peut-être sous même Temer s'en est pas trop occupé. Mais ce qui est plus important là dans la politique de Bolsonaro, c'est de faire l'envers de ce qu'a fait de complètement détricoter ce qu'a fait le gouvernement PT, comme Trump détricote ce qu'a fait Obama. Et comme les gouvernements PT ont eu une politique d'investissement dans les universités extrêmement forte jusqu'au deuxième mandat de Dilma Rousseff, parce que là la crise est arrivée, mais avec création d'universités et démocratisation. Démocratisation, on a vu arriver à l'université des gens des milieux pauvres. Et vraiment, ça a été un phénomène important. Et ça, c'est aussi visé par le gouvernement Bolsonaro avec des phrases du genre « mais il y a une folie pour les études supérieures au Brésil, mais on n'a pas besoin de faire des études supérieures, etc. » Donc, sur tous les plans, c'est absolument déconstruit.
Oui, il y a eu beaucoup de lois qui ont été mises en place par le PT pour mettre en place des quotas raciaux, des quotas sociaux, etc. Donc c'est tout ça que veut détricoter Bolsonaro. Glauber Cesirino, on voit bien que là, ce qui est en train de se jouer à l'université brésilienne, c'est une forme de combat idéologique. Jusqu'où est-ce que ça pourrait aller? Est-ce que, par exemple, Bolsonaro pourrait être tenté de réformer le mode d'organisation des universités pour peut-être, je ne sais pas, placer à leur tête des hommes qui sont bien dans le bolsonarisme pour justement livrer cette bataille idéologique?
Absolument, et c'est déjà le cas. Aujourd'hui, par exemple, la responsabilité de valider les nominations des présidents d'université au Brésil est tombée sous la main du général Heleno, à la maison au Planalto au Brésil. Et on a déjà aujourd'hui 5 universités dont les présidents ont été directement choisis par Bolsonaro, parce que c'était parfois des présidents qui ont été élus avec les moins votes possibles. Donc on a au Ceará, à Minas, on a 2 universités, à Bahia, on a une autre université, et on a un institut aussi fédéral technologique à Rio, dont les directeurs ont été choisis par l'exécutif directement, en respectant pas la tradition qui est établie au Brésil depuis au moins 2003, qui ont fait une élection. Les premiers de l'élection, celui qui a reçu le plus de votes possible, est nommé par l'exécutif. Et là, Bolsonaro a dit clairement, on ne veut pas nommer des gens qui ont des rattachements, qui sont liés pour une quelconque idéologie à la gauche, au PT, au PSOL, au PCdoB. Donc il a dit clairement cela et il commence à faire clairement cela.
Glober Cesarino, est-ce que vous pensez que les universités, les étudiants pourraient provoquer un grand mouvement social anti-Bolsonaro qui irait au-delà justement du monde universitaire? Est-ce qu'on peut emporter depuis les universités l'ensemble de la société? Je demande pas si vous le souhaitez, parce que j'imagine que oui, on croit le comprendre, mais est-ce que ça vous paraît possible?
Je dis pas que c'est nécessairement ça partira de là, mais ce qu'on a vu par exemple en mai, 15 mai et 30 mai, ce sont des énormes marches au Brésil, menées d'abord contre les coûts budgétaires et les annonces du ministre de l'Éducation, donc c'était des marches pour l'éducation, comme elle s'appelait, mais qui a donc agrégé d'autres demandes, notamment des demandes par exemple des peuples autochtones ou des demandes contre les violences policières. On a vu là aussi le 13 août, des marches dans plus de 200 villes au Brésil, certes moins nombreuses en quantité démographique que celle du mai, qui étaient aussi des marches pour l'éducation, qui ont aussi agrégé d'autres demandes.
Ouais.
Manifestations, par exemple, pour en soutien à l'Amazonie qu'on a eu le week-end dernier, pour une très bonne partie, ont été initiées au sein de syndicats étudiants, au sein des universités. Après, on peut pas vraiment prévoir quel sera les moteurs, on va dire.
De
changement.
Armel Anders, vous sentez possible l'émergence d'un profond mouvement social, un front anti-Bolsonaro?
Je suis assez sceptique quand même. Alors même si effectivement les manifestations du 15 mai en faveur de l'éducation, les suivantes en revanche ont été plus maigrelettes. Et puis c'est toujours les mêmes secteurs. Le 15 mai effectivement ça débordait de l'opposition à Bolsonaro. Je crois plutôt aux institutions et au fait qu'il y ait des conséquences que la situation économique empire. Là on se débarrassera de Bolsonaro si vraiment voilà. Mais il y a un danger, c'est les nominations à la Cour suprême qui vont se profiler. Et là, les institutions risquent de ne pas résister très longtemps.
Et ben, il faudra qu'on vous réinvite pour en parler.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar.
Vous avez évidemment reconnu Armel Anders.
Oui, Les Affinades de Jean Gilbert.
Voilà, qui est décédé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui était évidemment un monument national pour tout le Brésil.
Et international.
Et international, évidemment, sauf peut-être pour Bolsonaro. C'était une personne connue, nos pensées à la famille. C'est OK comme ça? Voilà ce qu'il a dit Bolsonaro à propos de son décès.
Oui. Et en même temps, il rendait un hommage appuyé au grand patriote qui était un rappeur qui s'est suicidé après avoir assassiné sa femme.
Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá.
Et bien voilà, c'est comme ça que s'achève cette série sur les aspirations démocratiques, notre première série de cette 10e saison de Culture Monde. Vous pouvez évidemment la retrouver sur la page de Culture Monde. L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Dans son essai « Libérer le peuple » qui se veut une histoire de la démocratie, le politologue John Donne nous invite à un regard lucide sur la démocratie. En quoi son histoire est-elle différente, Brice?
Et bien parce qu'elle invite à rompre avec le mythe d'un courant démocratique souterrain mais vivace qui serait apparu dans la Grèce antique et qui aurait hanté toute l'histoire européenne pour réapparaître miraculeusement à la fin du XVIIIe siècle en Amérique du Nord puis en France. John Donne insiste ainsi sur le discrédit dans lequel était tombée l'idée de démocratie. durant deux millénaires, elle a été synonyme de chaos social et de guerre civile, comme il le rappelle à Athènes même, berceau supposé de nos démocraties. D'excellents esprits jugeaient ce type de régime catastrophique, à commencer par Platon. Le fameux philosophe y voyait, je cite John Donne, une folie capable de dissoudre les valeurs, les convenances, le bon sens, un mode de gouvernement potentiellement brutal, fait pour les fous et pour les méchants. Quant à Aristote, il estimait que la démocratie favorisait excessivement les pauvres au détriment des intérêts collectifs et il décrit ce type de gouvernement comme violent, instable et menaçant. Il vantait, lui, la politeia et pas la démocratie. Bien entendu, la République romaine n'était nullement démocratique. Le problème, le pouvoir y était détenu par le Sénat aristocratique et par les consuls, et les révoltes plébéiennes, comme celle des frères Gracques, y furent systématiquement écrasées. Retraçant l'histoire du mot « démocratie », John Donne le repère pour la première fois en 1260, dans une traduction en latin de la politique d'Aristote par un moine dominicain. Mais il faut attendre le XVIIe siècle pour trouver des usages du mot dépourvus des habituelles connotations négatives qui s'y attachaient. Ainsi, le juriste perpignanais Andreu Bosch vante le gouvernement du peuple qui caractérise selon lui la politique de la Catalogne. À la même époque, à La Haye, le philosophe Spinoza plaide en faveur de la liberté d'expression, liberté qui, dit-il, pourrait être protégée aussi bien par un régime monarchique, aristocratique, que démocratique. Ah tiens, voilà la démocratie qui montre le bout de son nez. Mais remarquez bien que les concepteurs de la Constitution américaine, James Madison et Alexander Hamilton, récusent eux le label démocratie et ils lui préfèrent le mot de république. Les États-Unis sont déjà trop peuplés pour être gouvernés selon l'esprit de la démocratie, explique Madison. Le pouvoir devra y être délégué, tant au niveau des États confédérés qu'au niveau fédéral. Dans les démocraties, poursuit-il, ce pouvoir est exercé plus directement. Les révolutionnaires français de 1789 sont sur la même ligne. Selon Sieyès, je cite, « La véritable démocratie étant impossible chez un peuple nombreux, il est insensé d'y croire ou d'avoir l'air de la redouter. » La France aussi sera donc une république. C'est avec Robespierre, en 1793, que la république et la démocratie deviennent synonymes. Et le ressort d'un tel régime, selon l'incorruptible, eh bien c'est, on s'en souvient, la vertu civique, l'amour de la patrie et de ses lois, dit-il. Bref, la liberté des anciens, selon Benjamin Constant. Pour John Donne, ce qui fait que nous autres modernes aimons tant l'idée de démocratie, c'est qu'elle nous donne l'illusion de détenir le pouvoir. La démocratie, écrit-il, est devenue notre mot favori pour désigner la seule base à partir de laquelle nous acceptons notre appartenance et notre dépendance. Il n'est pas loin, John Donne, d'y voir une ultime ruse des classes dirigeantes pour obtenir l'obéissance des peuples.
Et puis, Brice, autre symptôme de l'inquiétude qu'inspire l'état de santé de nos démocraties, un essai intitulé « Comment la démocratie finit ?»
Eh oui. How Democracy Ends, de David Runciman. C'est pas encore traduit en français. Oui, en réalité, Runciman est moins pessimiste que le titre de son livre ne le laisserait paraître. Il pense simplement que nos démocraties sont atteintes parce que les Britanniques appellent, vous savez, une midlife crisis, la fameuse crise de la mi-vie, de la quarantaine. À ses yeux, en effet, les démocraties dans lesquelles nous vivons doivent l'essentiel de leurs traits à des décisions collectives qui ont été prises soit après la Première Guerre mondiale, soit après la Seconde. Elles sont donc plus récentes qu'elles ne le croient, mais plus jeunes, plus si jeunes non plus. Et c'est pourquoi elles se trouvent actuellement face à des choix cruciaux, comme souvent à mi-vie. Pour ce politologue tocquevillien, la démocratie, avant d'être un régime politique, est aimantée par deux idées. Un, la poursuite d'une forme d'égalité, d'une part. Deux, de l'autre, la promesse d'une prise de contrôle de leur propre destin par les individus et par les collectivités. Or, constate-t-il, les deux sont actuellement en crise. Les inégalités se creusent dans tous les domaines et les peuples ont le sentiment d'avoir perdu prise sur leur existence collective. D'où la popularité des politiques qui promettent de reprendre le contrôle. C'était justement le slogan des Brexiteurs, « Take back control ». Aujourd'hui, un Premier ministre issu de leur rang se permet de mettre le Parlement britannique en congé. Décidément, la démocratie ne se porte pas bien.
Et on en parlera demain, justement, Brice Couturier.